VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 16 octobre 2023. En direct de Washington, Idrissa Seboudia. Pour commencer, les titres. Hommage national au Burkina Faso à l'ex-président Thomas Sankara, assassiné en 1987. En Ouganda, la police déjoue des projets d'attaque ADF contre des églises, selon le président Museveni. En RDC, 7 membres d'une famille tués dans un incendie criminel à Goma et au moins 28 morts dans un naufrage sur le fleuve Congo. Le président américain Joe Biden estime que l'occupation de Gaza par Israël serait une grave erreur et, selon son secrétaire d'État Anthony Blinken, expulser les Palestiniens de Gaza est une idée vouée à l'échec. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, le régime de transition a rendu hommage dimanche à Ouagadougou à l'ancien président révolutionnaire Thomas Sankara. C'était lors d'une sobre cérémonie marquant le 36e anniversaire de son assassinat, Eric Manera Kidza.
La cérémonie a eu lieu devant la grande statue de Thomas Sankara, érigée dans la capitale burkinabé en 2019, à l'endroit où l'ex-président a été assassiné et inhumé environ 30 ans plus tard. Le chef de la transition et capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a un an, a présidé la cérémonie, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et de présidents d'institution. En treillis militaire et béret rouge, le capitaine Traoré a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue après avoir présenté le décret adopté début octobre, élevant Thomas Sankara au rang de héros de la nation. Le capitaine Traoré a ensuite procédé à la pose d'une première pierre, marquant le début de la construction d'un mausolée sur le même site, consacré au père de la révolution burkinabé et à ses 12 autres compagnons tués avec lui. En outre, l'ancien boulevard Charles de Gaulle, jouxtant le siège du mémorial, a été rebaptisé du nom de Thomas Sankara en guise de reconnaissance, selon le vice-président du comité international du mémorial Thomas Sankara, le colonel-major Daouda Traoré.
En Ouganda, des attaques à la bombe contre des églises par des combattants de la milice ADF, Forces démocratiques alliées, ont été déjouées hier dimanche à environ 50 kilomètres à l'ouest de la capitale Kampala. C'est ce qu'a affirmé le président Yoweri Museveni sur X, l'ex-Twitter. Précision de Mohamed Humfa.
Deux engins explosifs que des ADF, rebelles ayant prêté allégeance au groupe État islamique, prévoyaient de poser dans des églises de Kibibi ont été signalés à la police et désamorcés, a écrit le chef de l'État ougandais. Un peu plus tôt dimanche, Yoweri Museveni, 79 ans, qui dirige le pays depuis 1986, avait déclaré que les forces ougandaises avaient effectué la veille des frappes aériennes contre des positions des ADF en République démocratique du Congo voisine. Il semble que de nombreux terroristes ont été tués, a-t-il écrit sur X sans donner plus de détails. Des ADF pourraient tenter de commettre des actes terroristes aléatoires en Ouganda à la suite de ces frappes aériennes, avait mis en garde le président. Dans son dernier rapport publié en juin, le groupe d'experts de l'ONU sur la RDC affirme que le groupe État islamique a fourni un soutien financier aux ADF depuis au moins 2019 par le biais d'un système financier complexe impliquant des individus dans plusieurs pays du continent émanant de la Somalie et passant par l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Ouganda. L'Ouganda et la RDC ont lancé une offensive conjointe en 2021 pour chasser les ADF de leur bastion congolais sans parvenir jusqu'à présent à mettre fin aux attaques du groupe.
En RDC, 7 membres d'une famille sont morts calcinés dans la nuit de samedi à dimanche dans un incendie criminel à Goma, dans l'est du Congo, a indiqué la police. L'incendie s'est déclaré dans le quartier Katoï, selon les témoignages des voisins qui ont affirmé à l'AFP être venus après des cris de détresse lancés par les occupants de la maison en feu. Selon ces témoins, la maison était fermée à clé de l'extérieur alors que le père, la mère et les enfants s'y trouvaient. Par ailleurs, toujours en RDC, au moins 28 corps ont été repêchés et des dizaines de personnes étaient portées disparues après le naufrage d'une baleinière vendredi sur le fleuve Congo. C'est ce qu'on a appris dimanche auprès d'un responsable provincial, Gabu Dorsil.
La baleinière qui quittait Mbandaka pour le territoire de Bolomba, dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest, a fait naufrage dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan provisoire est de 28 corps repêchés, des dizaines de personnes sont encore portées disparues et les recherches continuent, a déclaré Crispin Poutou, ministre de l'Intérieur de la province de l'Équateur. Le nombre total des passagers ayant pris place à bord de l'embarcation n'était pas encore établi en l'absence du manifeste. Le document reprenant la liste des passagers qui a disparu a expliqué le ministre Mputu, joint au téléphone depuis Kinshasa. Nos équipes ont compté jusqu'à 49 corps hier et ce matin. Un autre a été récupéré des eaux, portant le bilan à 50 morts, a déclaré à l'AFP Joseph Boyoko Lokondo, un des animateurs de l'organisation Génération Consciente de la province de l'Équateur, un groupe de pression. Jusqu'à présent, une centaine de personnes manquent à l'appel. Elles sont portées disparues, a-t-il expliqué, ajoutant qu'entre 20 et 30 rescapés étaient toujours au port. Ils ont tout perdu. La baleinière transportait plus de 200 passagers, des marchandises et du matériel de construction pour un programme du gouvernement, a ajouté M. Boyoko. Selon la radio onusienne Okapi, la baleinière a eu du mal à avancer à cause de la surcharge.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Toute tentative par Israël d'occuper à nouveau la bande de Gaza serait une grave erreur, a estimé le président américain Joe Biden dans une interview diffusée hier au moment où les troupes israéliennes se préparent à une probable offensive terrestre contre le Hamas. Après l'attaque sanglante du Hamas sur son territoire le 7 octobre, Israël a lancé des représailles contre le groupe islamiste palestinien avec de nombreuses frappes et ordonné aux habitants du nord de Gaza de se rendre vers le sud en vue d'une intervention terrestre. Interrogé dans l'émission 60 Minutes de la chaîne américaine CBS sur son soutien éventuel à une occupation de Gaza par Israël, M. Biden a répondu « Je pense que ce serait une grave erreur. Le Hamas ne représente pas tout le peuple palestinien, a-t-il poursuivi, mais éliminer les extrémistes est une mesure nécessaire. Mais il faut une autorité palestinienne, il doit y avoir une voie vers un État palestinien », a poursuivi M. Biden. De son côté, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a catégoriquement rejeté la possibilité que les Palestiniens soient expulsés de la bande de Gaza. Une idée vouée à l'échec, a-t-il déclaré, estimant que les Gazaouis devraient pouvoir rester pendant qu'Israël combat le Hamas. Yacouba Ouédraogo fait le point.
Antony Blinken a entrepris une tournée de crise au Moyen-Orient après l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre en Israël, qui a tué plus de 1400 personnes, pour la plupart des civils, provoquant des représailles qui ont tué au moins 2670 personnes. Alors qu'Israël a demandé à plus d'un million de Gazaouis de quitter le nord de l'enclave avant une invasion terrestre, des hommes politiques israéliens ont proposé de repousser les Palestiniens vers l'Égypte voisine. L'Égypte a rejeté l'idée et le secrétaire d'État américain, lors de sa visite, s'est concentré sur les moyens d'acheminer l'aide humanitaire à Gaza, l'enclave densément peuplée et pauvre de 2,3 millions d'habitants, dirigée par le Hamas. J'ai entendu directement de la part du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et de pratiquement tous les autres dirigeants avec lesquels j'ai parlé dans la région que cette idée est vouée à l'échec et nous ne la soutenons donc pas, a déclaré M. Blinken dans une interview avec la chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya diffusée dimanche. Nous pensons que les gens devraient pouvoir rester à Gaza, leur maison. Mais nous voulons également nous assurer qu'ils sont hors de danger et qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin, a-t-il ajouté. Mahmoud Abbas a averti M. Blinken vendredi que chasser la population de Gaza équivaudrait à une seconde Nakba, soit le terme « catastrophe » en arabe, qui désigne le déplacement et l'expulsion de plus de 760 000 Palestiniens lors de la création de l'État israélien en 1948.
Par ailleurs, le président Biden a condamné dimanche le meurtre d'un garçon musulman de 6 ans qui a été poignardé près de Chicago, dénonçant un acte de haine horrible lié, selon la police, à la guerre entre Israël et le Hamas. L'enfant qui a reçu samedi 26 coups de couteau est décédé à l'hôpital. Sa mère de 32 ans devrait, elle, survivre, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Will dans l'Illinois, qui a qualifié l'attaque d'odieuse. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a reçu ce lundi son homologue russe Sergueï Lavrov en amont d'une visite attendue en Chine du président russe Vladimir Poutine pour le troisième forum des nouvelles routes de la soie. La Chine et la Russie, deux pays voisins, partagent une volonté commune de contrer ce que Pékin et Moscou présentent comme l'hégémonie américaine. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon un rapport de l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, des déchets du quotidien d'une valeur de 10 milliards de dollars regorgent de minéraux recyclables comme le lithium ou le cuivre. 35% de ces petits objets domestiques, dont de nombreux jouets et robots, représentent 9 millions de tonnes par an. Les 844 millions de dispositifs de vapotage jetés chaque année équivalent au poids de 6 tours Eiffel, indique le rapport. Dans son rapport mondial sur la connectivité, l'Union internationale des télécommunications indique que le nombre de personnes couvertes par le haut débit fixe en Afrique reste en dessous des 10%. Seuls 7 foyers sur 100 sont couverts contre 82% pour le mobile. Il s'agit du niveau mondial le plus faible. En Europe, le taux de couverture est de 96%. En matière d'abonnement, seul 1% des consommateurs a souscrit au service sur le continent africain. Selon un rapport de l'Institut d'études du développement basé en Grande-Bretagne, le Nigeria est le plus gros client des entreprises de technologies de surveillance sur le continent africain. Les pays africains dépensent au moins 1 milliard de dollars par an dans les technologies de surveillance de masse. Le rapport couvre 6 catégories de ces technologies au Nigeria, au Ghana, au Maroc, au Malawi et en Zambie.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Élisée Onpatine. Élisée, bonjour.
Et bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On commence par le mondial de rugby. L'Afrique du Sud rejoint le dernier carré.
Oui, au terme d'un choc d'anthologie, les Springboks, champions du monde en titre, ont renversé en quart de finale le pays hôte, la France, dans un match serré, score 29-28. Ils rejoignent à nouveau les demi-finales et affronteront samedi prochain l'Angleterre qui a éliminé les Fidji. La première demi mettra aux prises la veille l'Argentine à la Nouvelle-Zélande.
On enchaîne avec le handball. L'Angola s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris.
C'est à l'issue du tournoi africain de qualification qui a eu lieu à Luanda. Les Angolaises à domicile ont dominé ces éliminatoires en signant 3 victoires en 3 matchs. La dernière, 27-21 face au Cameroun. Elles joueront donc pour la 7e fois consécutive le tournoi de handball féminin au JO. L'Afrique peut toutefois avoir un second représentant. Le Cameroun, qui a fini 2e, va disputer en avril prochain un tournoi intercontinental.
Football à présent, la CAN, c'est dans 3 mois et les sélections qualifiées s'activent déjà.
Et tout à fait. Elle profite de la fenêtre FIFA de ce mois d'octobre pour livrer des matchs amicaux. Et à Abidjan, la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette CAN, et le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, se sont neutralisés 1-0. Victoire de la Mauritanie 2-1 contre Madagascar et le Ghana battu 2-0 par le Mexique. Suite des matchs ce lundi avec un alléchant Algérie, Égypte aux Émirats Arabes Unis, puis le très attendu Sénégal-Cameroun à Lens en France. Et au Portugal, le Nigeria jouera le Mozambique.
On jouait ce week-end le 2e tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans.
et le Sénégal s'est qualifié pour le tour suivant après avoir écarté le Bénin. 2-0 à l'aller et 0-0 hier dimanche au retour à Cotonou. Au prochain tour, les Lions juniors de la Teranga vont en découdre avec l'Ouganda. Pour le reste, la Guinée, facile vainqueur du Niger, 10-0 sur l'ensemble des deux matchs, affrontera le Maroc. Le Mali, qui a évité le piège Algérie, jouera au troisième tour l'Éthiopie. Autre belle affiche, on aura Cameroun, Kenya, RDC, Burundi, Égypte, Congo et puis Tanzanie, Nigeria.
Merci, Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, un juge d'un tribunal de Ziguinchor, dans le sud du pays, a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales lors d'une audience qui s'est tenue jeudi dernier. Une victoire importante pour l'opposition qui est toujours en détention. De son côté, l'État a décidé de contester cette décision auprès de la Cour suprême. Les réactions des Sénégalais avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
La décision a été accueillie par ses partisans comme une victoire, une bouffée d'air pour Ousmane Sonko, qui fait face à la justice sénégalaise sur plusieurs dossiers. Mais Demba Diagne, lui, refuse de se réjouir trop vite, craignant qu'il s'agisse là d'un cadeau empoisonné pour Sonko.
Je pense que les gens doivent faire preuve de prudence par rapport à cette décision de justice que je juge trop facile. Peut-être que c'est parce que cela s'est passé dans une ville qui lui est favorable, où il est maire, où il compte beaucoup de militants aussi. Peut-être que ces paramètres ont joué et que l'État évite un embrasement de la zone avec des émeutes et des affrontements, comme quand ils ont voulu arrêter Sonko dans cette même ville de Ziguinchor.
Une victoire d'Ousmane Sonko, mais surtout une victoire de la justice, c'est l'opinion d'Abdoulaye Cissé. Cet étudiant militant de la mouvance présidentielle voit aussi en cette décision judiciaire une leçon donnée aux détracteurs.
Cette décision n'est pas une débâcle pour l'État du Sénégal parce qu'il faut... Il faut rappeler que nous sommes dans un état de droit et que les gouvernants comme les gouvernés sont soumis et ont même droit. Donc je peux dire que c'est une victoire de la justice, mais aussi cela répond à ceux qui disaient qu'il n'y a pas de justice au Sénégal, il n'y a pas de justice indépendante au Sénégal. C'est une réponse à ces gens-là.
Samba, lui, parle de victoire pour la démocratie. Devant sa machine, dans son multiservice, le jeune homme se réjouit de la décision qui, selon lui, donne du crédit au processus électoral en cours.
Le fait d'avoir réhabilité son corps va favoriser des élections inclusives auxquelles tous les acteurs politiques vont participer. Ceci offrira, au-delà de la participation de tous les candidats, un cadre serein pour des élections transparentes.
Une victoire, une bouffée d'air ou un simple répit, les appréciations sont diverses au sujet de la décision rendue par le tribunal d'instance de Ziguinchor ordonnant l'annulation de la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral. Une décision contestée par l'agent judiciaire de l'État qui compte saisir la Cour suprême. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Bénin, les traditions ne se perdent pas. L'une des plus tenaces et des impressionnantes est celle de la flagellation propre à la communauté Peul dans le nord du pays. Nous allons à la découverte de ce rite à travers ce reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Ces cris sont des manifestations de joie devant la bravo d'un jeune homme qui a reçu sans broncher les coups de fouet, signe de son passage à l'âge adulte. Gounou Roland Lafia, président du comité d'organisation de la GANI, une fête identitaire au cours de laquelle la flagellation reste une des plus grosses attractions.
Ce n'est pas seulement ludique, parce que ça permet de se mesurer entre jeunes, souvent entre jeunes prétendants. et c'est tout un long processus. Il démarre, c'est un individu vient implanter, n'est-ce pas, le fouet et l'annonce pas dans toutes les contrées. Et celui qui se sent capable fait le déplacement et vient arracher le fouet.
Acte de bravoure et de courage, la flagellation est un rite de passage qui les pulle dans le nord du Bénin. Un jeune qui désire avoir le respect des jeunes filles et la considération des sages doit passer par l'épreuve du fouet. Cheikh Ahmed se réjouit de savoir que les jeunes sont conscients des valeurs à promouvoir.
C'est une question de courage. Et tu me frappes, je te frappe. Et celui qui désiste, il n'est plus la bienvenue. Et même devant les femmes, quand il veut doter, on dit non, lui là, il a trop peur. C'est un peu heureux. Et si vous arrivez à avoir le courage, c'est un acte de bravoure. On dit les courageux. Même la plus belle femme du quartier, on peut vous la donner.
La séance de flagellation draine souvent du monde. Certains parcourent des centaines de kilomètres pour y assister. Parmi les spectateurs, il y a ceux qui viennent regarder une épreuve de courage. Il y a également ceux qui considèrent qu'au nom du courage, on ne saurait accepter des châtiments corporels.
C'est ça qui montre qu'il est très garçon. C'est pas qu'il ne sent pas mal, mais il montre que même si c'est commun, lui peut rester comme ça, il va sourire même. C'est parce que c'est l'air que le dit.
C'est impressionnant parce qu'on rencontre vraiment une culture très forte et très riche. Et j'espère que vous arriverez à perpétuer toutes vos coutumes et qu'elles continueront à vivre comme vous le faites.
Encore appelée Goga, la fête de la flagellation a ses propres interdits. Certaines parties du corps ne doivent jamais être touchées par le fouet.
On ne touche pas les parties intimes, on ne touche pas le visage. C'est juste le tronc et c'est devant les jeunes dames, les jeunes filles.
De façon morale, c'est une satisfaction. Pour celui-là qui arrive à tenir devant son challenger, donc déjà lui c'est une fierté et ça se montre hein, lorsque ces personnes-là se retrouvent face à des dulcinés, c'est des preuves hein, qui permettent quand même à pouvoir gagner facilement le cœur de l'âme sœur.
Autrefois rituel sacré, la flagellation de nos jours a quelque chose de spectaculaire et n'est plus une histoire d'ethnie. Elle est souvent organisée à des occasions exceptionnelles. Mais qu'importe la circonstance, elle reste un défi que les jeunes veulent encore relever à tout prix. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, un nouveau train de mesures du gouvernement a été édicté après l'éboulement de terrain qui a causé la semaine dernière plus d'une vingtaine de morts à Yaoundé. Désormais, les normes de construction seront surveillées à la loupe, nous dit de Yaoundé notre correspondant Emmanuel Julentap.
Les risques d'inondation, d'éboulement et d'effondrement d'immeubles sont élevés au Cameroun en ce mois d'octobre, traditionnellement très pluvieux, d'après l'Observatoire national sur les changements climatiques, ONAC. Barthélémy Ahanda, de l'Observatoire national sur les changements climatiques.
Nous risquerons d'assister à ce genre de phénomène dans les régions de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest, et dans d'autres localités même de la région du centre. Ces phénomènes pourraient être accentués par l'action de l'homme, notamment le mauvais occupation des espaces. Au-delà des éboulements de terrain, nous assisterons aussi à des inondations, notamment dans les régions du nord et de l'extrême nord.
Près de 90% des constructions au Cameroun sont réalisées sans les expertises appropriées, selon le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Pourtant, les textes donnent des pouvoirs élargis aux maires pour veiller aux normes de construction et d'urbanisme. François Ossama, point focal de l'Observatoire national des risques au ministère de l'Habitat et du Développement urbain.
Nous avons une circulaire qui a rappelé aux maires la nécessité de mettre en place des commissions des actes d'urbanisme parce que ce sont ces commissions qui garantissent la prise en compte de par toutes les parties prenantes à une urbanisation durable.
Face à la montée des actes et services des populations qui construisent dans des zones non appropriées telles que les flancs de collines, les marécages, les nids des cours d'eau, les autorités ont décidé d'intensifier l'opération d'identification des bâtiments et concessions à risque. François Ossama, point focal de l'Observatoire national des risques au ministère de l'Habitat et du développement urbain.
Par exemple, dans la ville de Douala, il y a quand même eu une opération d'identification des édifices à risque. On était à 48 bâtiments qui avaient été identifiés dans d'autres régions, notamment la région du Sud. où également il y a des actions de sensibilisation qui ont été menées.
Lors de la journée internationale de la réduction des risques de catastrophes le 12 octobre dernier, le ministère de l'administration territoriale a annoncé une nouvelle stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes et la révision du cadre juridique de la protection civile. Yves Effa Edouard, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale.
D'autres actions majeures sont également envisagées pour accroître et optimiser les capacités d'action de la protection civile et renforcer la résilience des populations. Il s'agit notamment de la densification des outils de planification et de gestion des catastrophes, tels que les cartographies des zones à risque et les plans d'organisation des secours.
Le Cameroun a une loi obsolète régissant l'urbanisme. Les experts proposent que la nouvelle loi devrait orienter la police municipale dans le suivi des travaux de construction pour une meilleure prévention des risques. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda s'apprêtent à inaugurer une centrale hydroélectrique commune avant la fin de cette année 2023. Les populations des trois pays espèrent que cette nouvelle centrale permettra de diminuer les coupures intempestives de courant. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
Cette nouvelle centrale construite à la frontière rwando-tanzanienne de Rusumo sur la rivière Akagera que se partagent le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi. La centrale qui va générer 80 MW d'électricité fait la joie de la population des trois pays confrontés à l'insuffisance de l'électricité au quotidien. Fiona Uera du Rwanda et Robin Medi, citoyen tanzanien, réagissent.
Nous venons de loin et nous sommes sur une bonne voie. Mais avoir la vision de développement du Rwanda, nous n'avons pas assez d'électricité. Je considère que cette centrale est une réponse pour le Rwandais, surtout ceux qui veulent créer de l'emploi. Cela nécessite beaucoup de choses avec à la base l'électricité.
Dans les deux mois passés, il n'y avait pas de problème de courant électrique, mais ce mois-ci à Dar es Salaam, l'électricité fait problème. Tu as le courant deux jours, au troisième tu n'en as pas. Si le courant qu'on nous a promis est produit, ça nous aidera beaucoup. Mais dans le cas contraire, le problème va persister.
La centrale complète à 99,5% va profiter aussi au Burundi voisin. Ibrahim Ouizeye, ministre burundais de l'hydraulique, de l'énergie et des mines.
La centrale est d'une grande utilité et c'est pourquoi nous élargissons notre réseau électrique pour donner le courant à la population qui en a besoin. Nous sommes ravis de voir presque toutes les turbines opérationnelles. Nous serons contents de revenir inaugurer la centrale prochainement pour que la population de nos trois pays ait assez de courant électrique.
Pour le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, la centrale hydroélectrique de Rusumo est perçue comme un projet essentiel au développement. Fatouma Ndagiza, parlementaire à l'Assemblée législative de la communauté est-africaine.
Nous espérons qu'une fois cette centrale terminée, nos trois pays accroîtront leur production énergétique, car sans électricité, le développement commercial, industriel ou le bien-être social serait illusoire.
Pour les observateurs, ce projet donnera un coup de pouce aux efforts des trois pays pour accroître l'accès à l'électricité, estimé à environ 18% pour le Burundi, environ 45% pour la Tanzanie et plus de 61% pour le Rwanda. Jean Damascène Manishimwe, VOA Afrique, Kigali.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, Lex, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.